Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade.
Ça coule de source, une émission du SAGEBA, le syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Automne.
Bonjour, Hervé Amou propose une nouvelle émission. Chaque trimestre, le SAGEBA viendra vous parler de ses missions et de ses actions concrètes sur le terrain. On commence d'abord avec les acteurs de cette émission. D'abord le président, bonjour.
Bonjour, je suis Benoît Davin, je suis président du SAGEBA depuis 6 ans et j'ai le plaisir d'être entouré en tant qu'élu de 39 élus, de 54 élus pardon, qui sont élus de 39 communes différentes et on rayonne entre l'Aisne et l'Oise.
Et vous êtes maire ?
Et je suis maire de Mortefontaine dans l'Aisne.
Voilà. Ensuite, Thierry Touré, directeur.
Bonjour, merci. Donc Thierry Touré, je suis le directeur de la structure. Je suis là que depuis 3 ans. Et je suis également l'animateur d'une certaine politique, d'un SAGE. On y reviendra par la suite.
Christophe ?
Oui, bonjour. Christophe Léto, je suis le technicien rivière du SAGEBA depuis près de 15 ans. Et donc, moi, j'interviens sur le volet rivière.
Et Clément ?
Bonjour à tous. Donc, je suis Clément Danteville. Moi, ça fait 3 ans que je suis au SAGEBA et mon poste, c'est celui de chargé de mission zone humide. Donc, je m'occupe des zones humides. On en reparlera aussi.
Bah, première question toute simple, c'est quoi le SAGEBA et qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, le SAGEBA, c'est le syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Automne. C'est une structure intercommunale qui regroupe, comme je vous l'ai dit, 39 communes, mais aussi 3 communes et d'agglomérations, donc, qui concernent la communauté de communes Retz-en-Valois, la communauté de communes du Pays du Valois, et puis l'agglomération du Compiénois, l'Arc. Donc il y a 54 élus, comme je le disais tout à l'heure, et qui ont élu donc, un bureau de 11 membres, et j'ai la chance, moi, d'être assisté de 3 vice-présidents, et donc nous nous voyons régulièrement avec le vice-président et nous organisons des réunions avec les 54 délégués environ une fois par trimestre. Et c'est là où on prend des décisions, des orientations, on va dire, politiques, des choix d'intervention. Donc c'est, et le but, c'est d'avoir le consensus de tous les élus.
Là, on a décidé d'une émission trimestrielle. Pourquoi vous avez décidé de venir parler à la radio ?
Ben, c'est se faire connaître et puis faire connaître ce qu'on fait pour ce qui a été dit par mes techniciens, par les zones humides. On intervient donc sur la rivière Automne et ses affluents. Donc on fait plein de petites opérations, voire des grosses opérations, dont le Verval, dont on parlera plus tard. Mais donc voilà, l'idée c'est que les gens sachent à quoi sert une zone humide, pourquoi est-ce qu'il faut reméandrer, ça c'est un terme un peu technique, mais on expliquera pourquoi il faut reméandrer la rivière, et puis voilà, expliquer pourquoi et tout ce qu'on fait, tout simplement.
Vous pensez qu'avec le réchauffement climatique, en plus de ça, il faut parler de l'eau tout le temps ? C'est important ?
Ben oui, il faut en parler, et puis il faut savoir pourquoi il faut en parler. Je ne sais pas si l'année prochaine sera sèche ou très sèche, je ne sais pas du tout, mais en faisant des petites opérations ponctuelles à certains endroits, on peut éviter des inondations, on peut éviter des assèchements de certaines zones. Donc voilà, il y a un intérêt d'intervenir sur tout le secteur.
Vous pensez qu'il y a une prise de conscience ?
Ah bah là, oui, j'en suis convaincu. Avec la canicule qu'on a subie la semaine dernière, si on avait un peu oublié, c'est vrai qu'avec l'année 2024 très humide, qu'on pouvait avoir des étés secs, bah là, on est parti pour avoir un été sec.
Alors, vous intervenez sur toute la vallée de l'Automne ?
Oui, donc c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui le SAGEBA est un syndicat de bassin versant et pas uniquement un syndicat de rivière, parce qu'on peut être amené à intervenir sur les bordures de plateaux pour éviter des ruissellements, pour donc, comme je disais, éviter des inondations potentielles.
Ça veut dire aussi que vous intervenez sur les affluents de l'Automne ?
Tout à fait, tout à fait. Et là où c'est intéressant au niveau politique, comme je vous disais, on ne s'arrête pas à une frontière du département. L'Automne a sa source à Villers-Cotterêts et se jette à Verberie. Donc vous voyez, il y a plusieurs communes de l'Aisne qui sont représentées et plusieurs communes de l'Oise. Donc voilà, c'est assez rare dans les structures politiques qui souvent s'arrêtent à la frontière des départements ou des régions.
Dans cette première émission, on va parler d'émissions du SAGEBA. Après, on viendra peut-être dans les autres émissions à des choses plus concrètes, les actions concrètes sur le terrain que vous faites pour le moment. Mais dans quel domaine vous intervenez au SAGEBA alors ? Thierry Touré.
Oui, justement, pour avant de voir les domaines, pour compléter, on a un bassin, une superficie, comme le disait le président, de Villers-Cotterêts jusque Verberie, c'est en gros 300 km². Et ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'on raisonne, pas unité hydrogéo, mais c'est voilà sur des critères naturels. Il n'y a pas de frontière administrative, c'est ce qu'on appelle, parce qu'on y reviendra par la suite, un bassin versant. Pour faire simple, c'est toute l'eau qui va s'écouler et amener un même exutoire. Et en fonction de ça, on découpe des bassins versants. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec le bassin de l'automne. Pourquoi est-ce qu'il était défini comme ça ? Parce que c'est un bassin versant. Donc il y a une cohérence au niveau de l'environnement, et pas forcément au niveau qui s'affranchit des frontières administratives. On intervient dans quel domaine ? De la même façon, pour faire simple, les communes ont des compétences. Elles ont des compétences en matière de déchets, en matière de gestion des cimetières, en matière etc. etc. On va pas tous les passer. Et elles ont également des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques. Et ces compétences en matière de gestion des milieux aquatiques, les ont transférés, ces 39 communes, les ont transférés à nous, au SAGEBA, en leur disant « Vous exercez cette compétence en mon nom. » Et donc, parce qu'on mutualise, parce que justement, il y a une logique territoriale, géographique, de dire c'est mieux qu'il y ait un seul acteur qui agisse sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce qui nous énerve très clairement, c'est quand on dit la SAGEBA, parce qu'on a souvent tendance à penser qu'on est une société. On n'est pas une société, on est un service public, on utilise de l'argent public, donc on est des acteurs, on intervient au nom des collectivités. On exerce leurs compétences, entre guillemets, à leur place, sous leur mandat, et c'est eux qui qui participent avec leurs cotisations.
Là, vous avez parlé des communes, mais il y a beaucoup de communautés de communes qui ont repris la compétence de l'eau, et même de la gestion aussi des zones humides maintenant.
Oui, alors ça complexifie les choses, parce que certaines ont la compétence, de toute manière, elles avaient la compétence de fait, une fois qu'une commune a la compétence gestion des milieux aquatiques, si elle fait les membres d'une interco, ça passe à l'interco. Mais il y a plein de choses aussi qui évoluent, parce qu'on intervient aussi en matière d'assainissement, même si c'est pas directement. Il y a des prises de compétences par les différentes intercommunalités, qui rendent les choses plus complexes, et on pourrait en faire plus d'une émission, mais je suis pas sûr que ce soit passionnant. Par exemple, l'ARC a beaucoup plus de compétences.
Alors, l'ARC, on va préciser tout de suite.
Oui, l'ARC tout de suite, pardon. Oui,
la région de Compiègne.
L'agglomération de la région de Compiègne. C'est vrai que j'avais avec ma main montré à gauche, mais ça n'a aucun sens à la radio. l'ARC, cette intercommunalité, une des trois intercommunalités, a beaucoup plus de compétences, elle en a en matière de ruissellement, etc., que ne peut en avoir la communauté de communes à l'autre extrémité de Retz-en-Valois. Donc, et nous, on est au milieu et on doit jongler avec ça en disant, il y a tant de délégués qui représentent telle compétence, telle chose. Bon, c'est assez complexe pour nous à gérer. Les intercommunalités, en effet, ont des compétences, et nous, de toute manière, on agit en collaboration avec toutes les intercommunalités, avec les trois intercommunalités qui nous concernent.
Et dans le bassin versant, est-ce que toutes les communes sont adhérentes ? C'est obligatoire d'être adhérent ou pas ?
De toute manière, oui, il faut qu'elles exercent leurs compétences, sinon il y a un truc. Donc c'est l'intercommunalité après qui nous a transféré la compétence. Donc, de fait, c'est pas elles sont liées. Sinon, elles exercent leur compétence. Après, on peut rentrer dans des ce serait des calculs juridiques. Il y a toujours possibilité de se retirer du SAGEBA. On est un syndicat mixte fermé. On va pas rentrer parce que syndicat mixte fermé, c'est qu'on est composé que de communes et d'intercommunalités. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de département, il n'y a pas de région. Donc, comme dans tout syndicat, il y a des possibilités de retrait. Mais alors, ça voudrait dire que c'est l'intercommunalité qui reprend la compétence. C'est extrêmement complexe.
Et en effet, la particularité, c'est qu'on est bien un syndicat de bassin versant, on n'est pas qu'un syndicat de rivière. Donc en effet, on a certaines communes qui sont traversées par aucune, ni l'Automne, ni un de ses affluents. Et pourtant, ils sont adhérents du Sageba. Mais peut-être qu'ils chez, sur le secteur, ils ont une zone humide. Et de toute façon, ils font partie du territoire. Donc ils font partie de toutes les communes.
On peut rappeler ce que c'est que le bassin versant. Ça veut dire que toutes les eaux de pluie et tout ça vont vers une rivière qui est un affluent de l'Automne ou dans l'Automne direct.
C'est ça. C'est bien.
Ça concerne toutes les eaux ruissellement, haute surface, qui vont converger vers un même point qu'on appellera, enfin on le retrouvera, l'exutoire. Donc voilà.
Alors, on a vu que vous travaillez sur des ZH. Qu'est-ce que c'est, une ZH ?
Alors une ZH, on va peut-être laisser on va peut-être laisser Clément en parler parce que c'est important. C'est les zones humides. Quand on dit que nous on gère les milieux aquatiques, on va penser évidemment en premier lieu aux rivières. Et ça, ce sera Christophe, c'est lui qui est responsable de ce secteur. Mais les milieux aquatiques, c'est pas uniquement les cours d'eau, les rivières. C'est également les zones humides dont Clément a la charge d'assurer la protection, la restauration quand c'est possible. Donc si tu pouvais nous rappeler ce qu'est une zone humide.
Oui, voilà déjà.
Oui, c'est pour ça. On va commencer par une définition assez simple. Donc une zone humide, en fait, c'est tout simplement un terrain où l'eau est présente de façon permanente ou temporaire, une partie de l'année ou toute l'année. Donc pour faire simple, ça peut être des prairies humides, ce qu'on appelle des tourbières, ça peut être des marais, ça peut être des mares, ça peut être des bords de rivière. Ça, c'est plutôt les zones humides, on va dire, de l'intérieur des terres, mais il y a aussi des zones humides en littoral. Donc là, ça va être des bas marais, des marais salins, etc.
Ok.
Alors, pour les identifier, c'est plutôt pratique. On utilise soit le critère pédologique, c'est-à-dire qu'on étudie le sol, ou alors on utilise le critère floristique, c'est-à-dire qu'on utilise la végétation. Donc on étudie ces deux critères, et en fonction de la présence, par exemple, de plantes qu'on retrouve exclusivement en zone humide, on peut facilement dire qu'on a affaire à une zone humide.
Parce qu'une prairie, comme ça, on peut définir que c'est une zone humide
en fait,
par les fleurs qu'il y aura, par ce qui va pousser dessus.
C'est ça, oui, exactement.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en dessous, par exemple, il y a de l'argile ou autre chose et que l'eau ne s'infiltre pas ou... C'est quoi ?
Alors, en fait,
qu'est-ce qui fait qu'une zone est humide et pas l'autre d'à côté ?
C'est justement deux paramètres qui sont imbriqués, la flore et le sol, puisque en fonction du sol, il va y avoir une certaine végétation qui va pousser. Par exemple, si votre sol est gorgé d'eau, forcément, les plantes qui vont y pousser, ça va être des plantes qui ont besoin d'avoir les racines ou les pieds dans l'eau pour bien pousser. Par exemple, en zone humide, vous allez jamais avoir de cactus, par exemple. Qui sont plutôt des plantes là qui ont besoin d'avoir un sol sec.
Ma question, c'était, le sol est humide parce que le sous-sol est d'une certaine composition à chaque fois. Vous faites des études comme ça, non? Par exemple, il y a certaines qualifications de sol qui laissent passer l'eau et d'autres qui ne vont pas le laisser passer.
Non, mais je crois que comme le disait Clément, tout de même, il n'y a pas que le critère du sol, mais en effet, il y va avec une tarière.
C'est ça, oui.
Où il descend dans le sol pour voir justement quelle est sa composition. Mais après, l'origine de zone humide, on regarde aussi les plantes. Hein. Les critères, ils ne sont pas cumulatifs, ils sont alternatifs. Et ce qui est important de comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a des conséquences attachées au fait qu'on dise c'est une zone humide. C'est-à-dire qu'après, ou de la même façon, quand on dit c'est un cours d'eau. On a notre président qui est aussi agriculteur, il sait que quand on dit que c'est un cours d'eau et pas un fossé, il y a une réglementation qui va s'appliquer, à la fois pour les agriculteurs, pour les particuliers, etc. Et de la même façon, une fois que vous caractérisez une zone humide, on ne peut pas non plus la détruire n'importe comment. Il y a des réglementations qui s'attachent à tous ces aspects-là, une fois qu'ils ont été bien mis en évidence.
Oui, c'est la question que j'allais poser là. Par exemple, le président qui est agriculteur, si dans son terrain il y a une zone humide, il ne pourra pas la transformer pour mettre de l'agriculture dessus. A priori, si elle est définie, non ?
A priori, non, mais il faut qu'elle soit définie. Par contre, il peut y avoir quand même des aménagements, mais qui sont très réglementés. On pourra, si on voulait déplacer de la terre dans cette zone, il n'y a qu'une certaine quantité qu'on pourra déplacer. Il y a des règles comme ça. Mais le mieux, c'est de le savoir. Donc l'idée, c'est d'avoir un inventaire de ces zones humides. Parce que si... que ce qu'on soit agriculteur ou vouloir aménager sa commune en tant que maire, etc. Si on ne sait pas que c'est une zone humide, on va peut-être autoriser une construction. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait un inventaire, et ça c'est un des travaux de Clément, d'avoir cet inventaire des zones humides sur notre zone.
Et puis il y a des superficies, hein. C'est pas à partir du moment où vous avez un mètre. Enfin, il y a une réglementation en toute manière qui s'applique, hein. C'est 1000 mètres, au-delà, entre 1000 mètres carrés. Où il n'y a pas entre guillemets d'infraction ou de réglementation spécifique applicable. Hein. C'est pas le côté on sacralise tout et plus rien ne peut se faire. Mais il y a des endroits en effet où il faut impérativement les protéger parce que Clément nous expliquera aussi à quoi ça peut servir à la fois quand il fait chaud et à la fois quand il pleut trop. Ça a vraiment une fonction essentielle.
Ces zones humides, comment vous allez les trouver? Par exemple, vous avez le droit d'aller chez le président pour faire des forages sans lui demander son autorisation, ou comment ça se passe?
Alors,
sur tout le territoire, vous avez accès partout, même aux propriétés privées?
Alors déjà, donc l'inventaire des zones humides, il y a eu un pré-inventaire qui a été réalisé par un bureau d'études. Ça concernait donc tout le bassin Arsan. Et en fait, les zones humides potentielles ont été identifiées avec des modèles, on regardait les pentes, on regardait où l'eau allait s'accumuler. Donc en fait, il y a eu une présélection réalisée sur tout le bassin Arsan. Donc il s'est avéré que elles ont été pré-localisées forcément autour des cours d'eau surtout, puisqu'en fait, c'est là où il y a la plupart des zones humides du bassin versant. Et ensuite, nous, derrière, on est allé vérifier si la prélocalisation était correcte, donc en faisant des inventaires floristiques et pédologiques, comme dont je parlais tout à l'heure. Et oui, donc si c'était chez des privés, on demande l'autorisation d'accéder à la parcelle. Ensuite, si c'est des parcelles communales, on peut y aller assez facilement, on prévient la commune potentiellement, mais voilà... Après, on discute avec les gens, on ne fait pas notre travail dans notre coin. En fait, on essaie de concerter un peu tout le monde. Voilà.
Après, qui a autorité pour dire à l'agriculteur, cette zone-là, c'est une zone humide, donc vous ne pouvez pas cultiver dessus?
Alors, ce ne sera pas nous. Ce sera la réglementation, ce sera la préfecture dans le cadre de la délivrance des autorisations. Lorsque l'agriculteur vous dépose un projet ou etc., dira non, c'est pas possible, ou c'est possible sous condition parce qu'il y a une zone humide. Nous, ça n'a aucun. Nous, on n'a pas de pouvoir ni de sanctions ni de données de contraintes. Hein. C'est juste des qualifications objectives et uniquement fondées sur le côté naturel. On a deux critères. Écologique et on regarde environnement. Voilà, on regarde si les critères sont réunis. Mais nous, en aucun cas, on ne sanctionne. On peut conseiller, pour restaurer, pour éviter. Même quand on est, c'est ça qui est important, qu'on vous disait tout à l'heure de sensibiliser. Même quand on est en dessous des seuils à partir desquels, entre guillemets, la loi va nous contraindre, c'est toujours bien de demander des conseils et de prendre la tâche du SAGEBA pour intervenir. À la fois dans les cours d'eau, dans les zones humides, on est là pour aider les gens et pour leur donner le guide des bonnes pratiques. Quoi.
Donc là, on a parlé de protéger les zones humides et tout, mais il y avait un autre versant, c'est les restaurer. C'est quoi restaurer une zone humide?
Alors, restaurer une zone humide, c'est en fait faire en sorte que... on retrouve dans ce terrain toutes les fonctionnalités qu'une zone humide doit remplir normalement. Donc peut-être que je peux expliquer rapidement ce que sont les fonctionnalités des zones humides.
Ah oui.
Donc en fait, il y en a quatre principales, on va dire. Donc la première, c'est le fait que les zones humides en fait sont souvent comparées à des éponges naturelles, puisqu'en fait, elles vont stocker l'eau lorsqu'il pleut, puis elles vont restituer cette eau progressivement pendant les périodes de sécheresse, ce qui va en fait éviter, donc quand il pleut beaucoup, les inondations dans les zones à risque. Et lors justement des périodes plutôt de sécheresse, là ça va permettre d'alimenter la rivière régulièrement pour éviter qu'il y ait des zones où la rivière s'assèche complètement. Il se trouve que dans la vallée de l'automne, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, puisque régulièrement la source de la Sainte-Marie, donc le principal affluent de la rivière automne, se retrouve à sec parfois en été, donc ça a été le cas il y a quelques années, je pense que c'était il y a 3 ans à peu près. Donc voilà, c'est important quand même de faire attention à ça. Ensuite, elles améliorent aussi la qualité de l'eau dans la rivière et dans les nappes phréatiques, puisqu'en fait elles vont être capables de filtrer certains polluants. En fait, elles ralentissent la vitesse de ruissellement des eaux de pluie par exemple. Et elle favorise donc le dépôt de particules en suspension dans les zones humides. En fait, tout ce qui est chargé dans l'eau va se retrouver dans la zone humide, parce que donc elle va retenir et assimiler une partie de ces polluants. On a par exemple les roseaux qui sont capables d'utiliser les nitrates ou de fixer l'azote. En fait, elles vont se servir de l'azote et du nitrate comme ressource pour grandir. Donc voilà. Et donc c'est autant de polluants qui ne vont pas se retrouver ensuite dans la rivière ou qui ne vont pas descendre dans les nappes phréatiques, là où on pompe pour nous, pour qu'on boive au robinet, quoi. Donc c'est ça qui est important aussi. Ensuite, donc il y a certaines zones humides bien particulières qu'on appelle les tourbières, qui sont capables de retenir en fait du carbone dans leur sol. Et donc ça va limiter le réchauffement climatique, puisque le carbone, on sait que quand il se retrouve dans l'atmosphère, il se lie à de l'hydrogène, et donc ça crée à de l'oxygène, et donc ça crée du CO2, un gaz à effet de serre. Donc autant le garder dans les sols que le relarguer dans l'atmosphère. Et ensuite, enfin, bah forcément, c'est aussi des lieux très sensibles, mais aussi très riche en biodiversité animale et végétale, ouais, avec donc ça forme des vrais refuges pour la faune et la flore, notamment pour les amphibiens, pour les oiseaux d'eau, ça peut être les canards, les hérons, mais aussi certains insectes, les libellules, les demoiselles.
Et sur le bassin versant, il y a des tourbières ?
On en avait un.
Alors, il y en avait il y a longtemps. Mais elles ont été justement dégradées du fait de, bien souvent, la culture du peuplier.
Ah oui.
Donc en fait, ces tourbières ont été drainées, ce qui fait qu'il n'y avait plus d'eau dans le sol. Et donc vous avez une tourbière sans eau, en fait ça ne devient plus une tourbière. Le sol se minéralise et il devient plus dur. Et donc là, on peut cultiver les peupliers, etc. Mais donc là maintenant il y a des zones tourbeuses, mais quand on fait des sondages on voit bien que la tourbe elle est un peu dégradée, elle est plus aussi en bon état qu'avant, quoi.
Et il y a possibilité de restaurer justement, puisque c'est dans vos missions.
Alors pour les tourbières c'est très compliqué de les restaurer, puisque en fait une tourbière se forme en plusieurs milliers d'années. En fait, 1 cm de tourbe se forme à peu près en 100 ans.
Ah oui.
Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est essayer de remettre en état initial, c'est-à-dire recombler les drains, couper les peupliers qui pompent pas mal d'eau. Mais le résultat, on ne l'aura pas tout de suite.
Ce ne sera pas pour nous.
Il y aura quand même des résultats qui auront un gain écologique direct. Hein. Il y a tout de suite un retour de certaines essences d'arbres, de certains animaux. Ça, c'est assez rapide. Hein. Au bout d'un an, vous avez déjà un changement de ce point de vue-là. Mais oui, pour la tourbe en elle-même, non, on l'aura pas tout de suite, quoi.
On a parlé des zones humides. Donc, on a un technicien, Clément, qui s'occupe des zones humides. Et on en a un autre, qui est Christophe, qui s'occupe des rivières. Donc, parle-nous un peu de l'entretien des rivières, comment ça se passe, en quoi ça consiste les missions du SAGEBA.
Alors déjà, un premier point, c'est le territoire sur lequel j'interviens. Donc nous, le Sageba, on a environ 125 km de cours d'eau en gestion. Donc sur ces 125 km, on a possibilité d'intervenir pour effectivement soit faire de l'entretien ou également de la restauration. Donc l'automne, elle mesure un peu plus de 37 km, qui est la rivière bien sûr principale. Et on a également la rivière Sainte-Marie, donc qui est l'affluent principal, qui fait un petit peu plus de 13 km. Et ensuite, on a tout un réseau de petits cours d'eau, de petits affluents, notamment le rue de Bonneuil, le rue de la Douille, le rue de la Moise, ou encore le rue des Taillandiers, qui passe à Crépy-en-Valois. Donc concernant...
C'est celui qui passe au parc Jérém.
Effectivement, oui. Il passe dans le parc de Jérém. Alors concernant nos actions, donc effectivement, on a à la fois des actions d'entretien et de restauration. L'entretien, comme son nom l'indique, ça consiste à entretenir un cours d'eau. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un cours d'eau qui est fonctionnel et qui est en bon état, ça va permettre de le maintenir dans ce bon état-là. Comment on procède? Donc la plupart du temps, ça va être de gérer le bois mort. Puisqu'en fait, naturellement, on a énormément de bois mort qui tombe dans la rivière et qui peut s'accumuler. Donc c'est pas forcément quelque chose de néfaste, hein, c'est un processus naturel. Mais on peut avoir certains endroits où on a des enjeux qui sont identifiés, où on a un besoin d'intervention et un besoin d'entretien. Donc je pense notamment aux ouvrages et aux ponts, par exemple, où vous pouvez avoir une accumulation de bois mort à ces endroits-là. Et donc, ça peut jouer sur les infrastructures. À terme, ça peut déstabiliser des ponts, déstabiliser des ouvrages, entraîner des inondations, entraîner des désordres au niveau des écoulements. Mmh. Donc là, on a un besoin d'intervention. Sinon, d'une manière générale, il faut plutôt intervenir au cas par cas, plutôt que d'une manière systématique. En fait, l'entretien, il faut que ce soit quelque chose de raisonné. Et en fait, on a toujours cette vision un petit peu négative du bois dans la rivière qui fait déborder, etc. Et qu'on a tendance à vouloir évacuer rapidement. Alors qu'en fait, c'est un vrai besoin d'avoir ce bois-là, puisque ça va créer des cages, ça va créer des habitats, ça va diversifier la rivière. Et dans des zones où finalement, vous n'avez pas vraiment d'enjeu, où vous n'avez pas d'habitation, vous n'avez pas d'infrastructure, vous n'avez pas de pont, c'est pas, il n'y a pas une nécessité d'intervention et vous pouvez laisser comme ça plusieurs années du bois mort dans la rivière et au contraire, c'est même bénéfique finalement.
Là, l'entretien, c'est le Sageba qui le fait, mais il partage ça avec des propriétaires, parce qu'il y a des propriétés privées le long des cours d'eau. Donc c'est partagé, vous dites là... un tel propriétaire, mais il faudrait que vous entreteniez les bords de la rivière.
Effectivement, en fait, tout le bassin versant est majoritairement privé.
Ben oui.
Donc, on a quand même des parcelles communales, mais c'est pas du tout la majorité. Donc, nous, d'un point de vue pratique, effectivement, on a cette compétence pour intervenir. Le Sageba peut intervenir où il veut, que ce soit sur du privé ou sur du public, via une déclaration d'intérêt général. Donc, qui nous permet justement d'intervenir et mettre des fonds publics sur des parcelles privées. Mais il y a également un devoir d'entretien, je dirais un entretien régulier de la part des propriétaires, que ce soit public ou privé, qui se doivent en fait que l'écoulement se fasse de manière naturelle, qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement vraiment important et donc un entretien régulier comme ça par exemple ils vont évacuer les déchets les flottants qui peuvent arriver ou enlever des branches, des arbres qui peuvent tomber dans des endroits.
Les propriétaires ils n'ont pas toujours les moyens de faire ça.
Effectivement, ils n'ont pas toujours les moyens donc il faut concerter avec eux mais il y a quand même un vrai en fait, c'est inscrit dans le code de l'environnement. Il y a un article dans la réglementation qui demande à ce que cet entretien soit aussi fait par les propriétaires. Donc,
La réglementation dit que c'est aux propriétaires riverains d'entretenir jusqu'au milieu de la rivière.
Ouais.
Donc, mais Christophe, là, parle, lui, d'entretien structurant, hein, comme vous le dites. Un riverain, il n'a pas toujours les moyens, il n'a pas une grue chez lui pour enlever ce qu'on appelle un embâcle, donc un obstacle à l'écoulement des eaux, si un arbre important est tombé. Ah oui. Par contre, ce que le riverain peut faire, c'est, avant qu'il tombe, il évite de le planter trop près de la rivière, du bord de la rivière. C'est tout bête, mais là, il n'y a pas de réglementation exacte. On parle souvent de 5 mètres, mais c'est une recommandation, ce n'est pas une législation. Et ensuite, après, avant qu'il soit trop grand, qu'il le coupe, quoi. Qu'il évite de tomber, quoi. Et ça, ils peuvent tous le faire. Mais en effet, une fois qu'il est tombé, certains ne peuvent pas l'enlever. Et après, l'autre difficulté, c'est que certains propriétaires ne savent pas qu'ils sont propriétaires quand ils ont un tout petit bout. Ils savent pas forcément, parce qu'il y a un certain morcellement de la propriété, notamment des bois en France, et ça ne touche notre bassin aussi.
Là, on a parlé des arbres, tout ça qui peuvent tomber, mais l'entretien des berges aussi, ça fait comment? Parce que il peut y avoir des animaux. Je sais pas, des ragondins, il y a des creuses, des terriers au bord, et ça fait écrouler les berges et tout. Il y a un entretien qui se fait aussi comme ça? Il y a une surveillance?
Alors, sur l'entretien des berges, en fait, il y a des associations de pêche qui le font, mais c'est essentiellement pour faciliter leurs usages, donc notamment la pêche. Donc ça consiste uniquement à débroussailler les berges pour pouvoir passer plus facilement. Sinon, concrètement... En fait, une berge dans un milieu naturel, isolé, il n'y a pas vraiment de gestion à faire. On va commencer à gérer les berges quand vous allez avoir des enjeux d'infrastructure, et notamment dans les villes, où effectivement, il peut y avoir une déstabilisation par les ragondins ou autres. Mmh. Et là, s'il y a vraiment un enjeu identifié, on va intervenir pour restaurer la berge ou pour la renforcer. Mais c'est pas quelque chose de systématique, puisqu'en fait, une rivière, elle a une certaine dynamique, elle a besoin de vivre et de bouger, finalement. Et en fait, si vous artificialisez les berges, vous allez empêcher justement cette dynamique et ce mouvement de la rivière. Donc en fait, l'idéal, c'est de garder des berges le plus naturel possible, avec des arbres et des systèmes racinaires quand même pour les maintenir, mais quelque chose vraiment de naturel, et ça suffit largement.
Là, on parle de l'entretien des cours d'eau, mais on parle maintenant de la qualité de l'eau aussi. Comment ça se passe? Quelles sont les missions? Qu'est-ce que vous pouvez faire concernant la qualité de l'eau?
Alors, sur les missions pour la qualité de l'eau, j'ai envie de dire que c'est toutes les actions mises bout à bout du Sageba et du bassin hydrographique. Le but, c'est d'atteindre le bon état, une bonne qualité des eaux. Ça a été fixé par des directives européennes. Désolé, hein, je ramène toujours ça, mais c'est après, c'est ce qui fonde notre action aussi, hein. Il y a toujours un socle juridique. Donc
vous êtes quelque part un peu les gendarmes quand même.
Non, parce qu'on peut pas sanctionner. On est les garants. Enfin, on doit mettre en œuvre. On est plus les moteurs pour mettre en œuvre les actions et pour essayer d'aller jusqu'à atteindre ces objectifs, mais on n'a aucun pouvoir de toute manière de sanction. Nous, c'est vraiment le but, c'est d'y aller. Donc, c'est le bon état ou pas des masses d'eau, c'est comme ça qu'on les caractérise. Ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre de est-ce que l'assainissement est bien fait ou pas. Ça relève pas de nous. On peut pas aller sanctionner. S'il y a un assainissement, enfin, il y a plein de procédures différentes. Est-ce qu'il y a du ruissellement? Est-ce qu'il y a trop de nitrate dans l'eau parce que il y a des problèmes avec que soit industrie, agriculture et même prélèvement pour nous, pour la consommation humaine. Hein, si vous pompez trop, il y a plus d'eau. Il y a plus assez d'eau pour le milieu et donc la qualité de l'eau se dégrade. Donc nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on mesure à différents points, via des études, la qualité de l'eau. C'est-à-dire, ils calculent température, oxygène, nutriments, etc., etc., pour voir comment elle évolue dans le temps. Et on regarde également si les animaux, les espèces, justement, reviennent, quel type d'espèces on a, ce qui peut caractériser ou pas le bon état du cours d'eau. Donc, on le suit, mais en la matière, nous, ça va être C'est ce que fait aussi Christophe en matière de, d'entretien de restauration. Mmh. Quand on dit faire de la restauration, ça va être de plus simple pour améliorer la qualité du cours d'eau. Hein, à mettre, bon, il le dirait mieux que moi, mais des pierres au fond de l'eau pour que les poissons puissent trouver des supports ou pour pondre, etc. Jusqu'à faire jusqu'à rendre à nouveau sinueux la rivière pour justement ralentir, dynamiser. Mais ça, c'est plus le domaine de Christophe. Mais ça va du plus simple au plus complexe, et pour le président au plus onéreux ou au plus ambitieux, tout dépend de ce qu'on se fixe comme objectif ou de ce qui est possible sur le terrain. Mais il y a plein de choses à faire, oui.
Mais vous faites des prélèvements réguliers de l'eau pour connaître la qualité.
Pour
savoir s'il n'y a pas de pollution.
C'est ça, mais on le fait faire par une entreprise spécialisée. C'est un marché public qu'on passe. Ouais. Mais le Sagéba suit la qualité des cours d'eau depuis déjà 2015. En fait. On suit donc, eux ils font des prélèvements, ils font 6 prélèvements par an, tous les 2 mois d'intervalle, sur certains paramètres, on va dire physico-chimiques, donc l'oxygène, la chimie, tous ces aspects-là qu'il peut trouver dans l'eau, et sur les espèces, sur les invertébrés, ils vont faire un prélèvement parce qu'il y a des périodes qui sont propices. Donc depuis 2015, ça nous permet aussi d'avoir une chronique et de voir comment est-ce que les cours d'eau évoluent en fonction aussi de nous, des efforts, enfin de nous, des travaux qu'on a fait. Est-ce que ça a vraiment amélioré ou pas? Et ça peut aussi nous signaler, oula, le cours d'eau se dégrade fortement, comment ça se fait, on retrouve telle et telle chose. Après, il nous manque des points de mesure. Par exemple, on ne peut pas vous dire, est-ce que c'est la station il y a des nutriments dans l'eau, donc des matières en suspension. Est-ce que ça provient du ruissellement agricole ou forestier ou de la ville qui a amené ces matières dans le cours d'eau, ou est-ce que c'est l'assainissement qui ne fonctionne pas bien et qui rejette Mais bon, on a ces points qui nous donnent quand même une vision assez globale. Et ce qui est important, c'est que notre plus grand, enfin, c'est même pas partenaire, c'est l'agence de l'eau, qui finance la plupart de nos actions. Elle aussi a des points de contrôle sur le bassin de l'Automne. Et donc, on essaie d'être complémentaires. Nous, on suit les petits cours d'eau que l'agence de l'eau ne suit pas.
Alors justement, on va enchaîner, puisque vous travaillez donc sur la qualité de l'eau. Et on a un exemple simple, c'est ce qui a été fait au Berval. On va en parler. Alors, le reméandrage, pour les gens, vous avez expliqué ce que c'est. Mais comment ça, le fait de remettre un cours d'eau sinueux, peut améliorer la qualité de l'eau et faire revenir, évidemment, des poissons autres invertébrés.
Voilà, je vais laisser, Christophe qui a été qui a suivi tout le projet.
Oui, alors le projet du Berval, donc, ça a été réalisé en 2023, les travaux. C'est un projet qui a débuté en 2016, donc ça a pris un petit peu de temps. Il a fallu faire des études, faire énormément de concertations avec l'ensemble des acteurs. Et en fait, le projet a abouti finalement à reméandrer l'Automne, donc à recréer les méandres tels qu'ils auraient dû être à l'origine, sur 1,5 km. Donc c'est un projet d'envergure, ce qu'on appelle un projet structurant, qui va effectivement englober... plusieurs aspects qui vont permettre, en plus d'améliorer la rivière, améliorer aussi la qualité de l'eau, la qualité de la zone humide, etc. Donc c'est tout un projet global qui a été mis en place. Donc j'ai travaillé bien sûr avec Clément sur ce projet-là. Et alors comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'une rivière, en l'occurrence là, la rivière Automne a été vraiment rectiligne. Donc elle avait été modifiée. Elle était vraiment toute droite, elle avait été tracée à la règle. Et en fait, en faisant ça, vous allez perdre des fonctionnalités et vous allez perdre le côté épuratoire aussi qu'on a naturellement dans une rivière naturelle. Et donc, on perd en qualité de l'eau. Donc, en recréant ces méandres et en ramenant de la sinuosité, vous allez en fait amener donc de la diversité et ralentir les écoulements. Et donc vous allez avoir de l'eau qui va mettre beaucoup plus de temps à arriver à la mer, donc qui va mettre beaucoup plus de temps à circuler, et donc qui va pouvoir être épurée de ce fait-là par les végétaux qui s'y trouvent. Vous allez en même temps améliorer la qualité. Vous allez avoir une rivière qui va être plus lente, mais également plus ombragé, etc. Donc vous allez avoir aussi un réchauffement qui va être moindre. Donc voilà, tout ça va jouer sur la qualité de l'eau. Et également, en faisant ça, en fait, on va permettre aussi à la rivière de déborder plus facilement, puisqu'en fait, elle va être ralentie. Donc, quand vous allez avoir une crue et vous allez avoir une eau, le niveau qui va monter, l'eau va pouvoir aller dans la zone humide plus facilement et s'étaler dans la zone humide. Et donc, comme le disait tout à l'heure Clément, la zone humide va prendre le rôle d'éponge et le rôle d'épuration. Et à ce moment-là, l'eau va également être épurée. Et être largué en meilleur état. Donc voilà, c'est vraiment tout un ensemble, et c'est pour ça qu'on tend vers des projets de ce type-là pour vraiment travailler sur tous les aspects.
Parce qu'il y a deux aspects, la ligne droite en fait, l'eau quand elle court, elle lessive le fond, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Mais c'était obligatoire pour le travail, parce qu'il y avait... Pour un moulin ou pour autre chose.
Oui, ça pouvait l'être aussi. C'est surtout qu'à un moment donné, on a pensé que... Alors, en effet, il y a pour l'activité économique, ouais. Mais pendant longtemps, on a pensé que plus vite l'eau va à l'exutoire, c'est-à-dire à la sortie, et moins on a de dégâts. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on revient sur ces aspects-là, le temps ayant prouvé qu'un cours d'eau sinueux protège mieux des inondations que quelque chose qui est canalisé, parce qu'il y a un moment donné où ça sort, et puis le cours d'eau, il aime pas trop qu'on le force à prendre un chemin qu'il avait pas à l'origine. Et bizarrement, très régulièrement, quand il y a des inondations, c'est au même endroit. Enfin, c'est le cours d'eau, il a sa propre, sa propre logique, et donc voilà, on peut le rectifier, le mettre tout droit de façon artificielle. Mais ça, on pensait que c'était une solution à l'époque. Quand je dis on, ça remonte à très longtemps.
Pour la petite histoire, vous avez retrouvé des plans de l'automne avant qu'ils soient refait ?
Oui, en fait, quand on travaille sur ce genre de projet, on essaye de retrouver les cartes anciennes et
les anciens... Pour avoir le lit initial ?
Voilà, les anciens tracés, les lits d'origine. Et alors, pour le Berval, c'est un petit peu particulier parce qu'on avait un étang qui était lié au moulin et à l'activité aussi des moines. Hein. À l'époque, il y avait l'abbaye du lieu restaurée, etc. Donc, en fait, l'étang est assez ancien, donc il a été asséché au 18e, mais du coup, sur les cartes anciennes, il figure l'étang, et donc on n'a pas le tracé vraiment historique.
Ah oui.
Puisque l'étang était déjà une modification par le fait. Mais sinon, sur d'autres projets, effectivement, on arrive à retrouver les anciens tracés. Même des fois, il s'avère que les lits sont encore visibles sur le terrain parce que c'est relativement récent. Hein. Des fois, ça a été fait dans les années 70-80.
Ah
donc,
oui. Donc, moi, j'aurais dit plutôt dans les années 20 ou 30, je ne sais pas. Mais
Non, il y a des travaux qui sont relativement récents. Et donc, on voit encore les anciens tracés. D'ailleurs, souvent en hiver, l'ancien tracé a encore de l'eau, puisqu'en fait, vous avez encore la nappe qui est présente. Bon, en été, ça s'achève un petit peu plus. Et donc, du coup, de ce fait-là, nous, on retrouve les lits et c'est plutôt assez simple de remettre le cours d'eau dans son lit d'origine.
Alors, autre sujet, puisque Thierry a souhaité parler un peu du sage. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est, le sage. Je suis sage.
Mais... Ouais. Ah, c'est bien, moi, dans ma fonction, il y a marqué « je suis directeur, ingénieur sage ». J'en demande pas plus.
Voilà.
C'est impressionnant.
Autre sujet.
Voilà. Non, le sage, en fait, comme on l'a dit, il y a des...
Ça veut dire quoi ?
C'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ouais. Alors, pour expliquer, là, pour faire simple, la France, elle est divisée en sept grands secteurs. Loire-Atlantique, Rhin, Artois-Picardie, etc. sur des bases hydrographiques. Ça, c'est il y a sept grands secteurs.
Donc une base hydrographique, c'est quoi ça?
C'est ça. C'est la même chose, mais ça a une cohérence bien plus grande. Nous, par exemple, on relève de l'agence de l'eau Seine-Normandie. On fait partie du bassin Seine-Normandie et rivage normand ou côtier normand. Je ne connais pas toute l'appellation parce qu'on n'est pas concerné par tout ce qui est mer ici. Donc, on relève de ça. Et ces documents donc, qui vont fixer ce que je vous disais tout à l'heure, les objectifs, des buts à atteindre pour respecter la réglementation, hein, pour qu'on ne soit pas non plus condamné par l'Europe pour non-respect des obligations qu'on a prises, elles fixent des objectifs, des cadres. Et nous, sur notre petit bassin de l'automne, entre guillemets, on est une déclinaison où ces grands principes posés au niveau des sept grands bassins, eh ben nous, on l'adapte à nos particularités et on les décline. Et ça aussi, c'est une des compétences du SAGEBA. Hein, il a deux compétences que les communes lui ont données. Un, de gérer les milieux aquatiques en leur nom, et deux, d'animer ce qu'on appelle donc ce document qui est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Pourquoi j'en parle ? Parce que ça a des conséquences très concrètes sur le quotidien, ce document. On va avoir dans ce document des règles qui s'imposent au public, aux personnes publiques comme aux personnes privées. Il y en a très peu. Mais elles sont toujours issues de la loi, hein, mais c'est une déclinaison. Donc, si on dit, ben voilà, on n'a pas le droit d'assécher à tel endroit parce que c'est extrêmement important, voilà, là pour le coup, ça va s'appliquer. On a également des objectifs où là, on fixe des grandes lignes à atteindre, des choses d'information. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que justement, nous, le but dans ce SAGE, c'est ce qu'on appelle un petit parlement de l'eau, c'est de concilier tous les usages. C'est pas sont représentés justement dans ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils font partie, enfin, l'instance qui va le diriger, c'est ce qu'on appelle une commission locale de l'eau. Désolé pour tous les aspects, mais bon, pour la première, c'est important de poser les bases. Et donc, au sein de cette commission, on va avoir des élus, on va avoir aussi des représentants de l'État et on va avoir aussi des représentants de la société civile, associations, chambres d'agriculture. Enfin, c'est-à-dire que voilà, selon les endroits, il y aurait les loisirs, la chambre de commerce et d'industrie, le centre forestier. Enfin, tous les intérêts sont représentés parce que sinon on peut se dire, bah oui, vous définissez des règles ou des objectifs à atteindre et puis c'est un peu voilà, c'est directif. Mais non, c'est vraiment concilier les différents usages à la fois de ce que l'environnement a besoin, des buts qui sont atteints. Et donc, à partir de là, il y a toute une série de choses qui découlent. Par exemple, dans le SAGE, c'est là aussi où on prévoit qu'il est bien de suivre la qualité des cours d'eau. Le SAGEBA, structure porteuse, dit « Ok, je mets ça en œuvre, je m'occupe de cet aspect ». Au nom du SAGE, on est aussi, on va avoir un rôle très important à jouer, mais ce sera donc au nom du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, mais c'est vrai que ça fait plus long, hein, je rappelle le SAGE, on va avoir la question des volumes prélevables à traiter. Là, autant dire que ça va être un sujet assez épineux, que la conciliation... voilà, c'est bon, même si c'est travaillé au niveau du département, c'est de savoir à peu près comment est-ce qu'on répartit les prélèvements en eau entre l'industrie, l'agriculture, les personnes, l'alimentation en eau potable pour nous et tout en préservant l'environnement. Donc autant dire que là, pour concilier les différentes formes, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. En tout cas, ça va prendre du temps. C'est un sujet d'importance. Et on est consulté, pour tout un certain nombre de choses où on donne notre avis. Après, l'État, le préfet en fait ce qu'il veut, comme dans beaucoup d'avis qui sont de toute manière donnés. Si un particulier, veut faire une construction près d'un cours d'eau, que ça peut avoir un impact, on va nous demander notre avis. Au nom, non pas du SAGEBA, hein, au nom du SAGE, parce qu'il y a une réglementation, encore une fois. Qui impose ça. On nous demande notre avis aussi sur les arrêtés sécheresse qui sont en train d'être pris. Là, on en a un à rendre pour mercredi. Bon, là, c'est fait dans l'urgence pour dire on passe en zone d'alerte. Ou même quand ils établissent ces documents, on a notre avis en tant que SAGE, hein, pas en tant que SAGEBA, mais en tant que, voilà, que SAGE, de donner notre avis sur ces arrêtés qui vont avoir des conséquences pour tout à chacun. Ces arrêtés sécheresse, c'est ces arrêtés qui vont... pour certains, les empêcher d'irriguer à certaines heures, je pense aux agriculteurs en particulier, qui vont vous interdire d'aller laver votre voiture dans les stations de lavage qui ne récupèrent pas je ne sais pas combien d'eau. Il y a les pourcentages, les critères évoluent, qui vont vous interdire de remplir votre piscine, d'arroser vos fleurs, etc. Ça, ce n'est pas nous qui le décidons à chaque fois. Je vous le dis encore une fois, on n'a aucun pouvoir, sauf de donner notre avis sur les mesures qui seront prises et sauf après à ce qu'il y ait des recours contentieux en disant vous n'avez pas assez tenu compte de cet avis monsieur le préfet et je pense que vous avez commis une erreur mais bon c'est pas nous on n'est plus concernés.
Bien, il y a encore beaucoup de sujets à débattre. Je pense qu'une fois par trimestre, ça sera un minimum de se voir. Parce que là-dessus, il y a encore pas mal de sujets. Qu'est-ce qu'on a le droit de pomper dans les rivières, enfin, pour les particuliers, pour les agriculteurs? Il y a les projets que vous avez en cours. Qui décide des projets? Comment ils sont décidés et comment ils sont priorisés? Parce que je pense que vous avez plein de choses à proposer à chaque fois. C'est l'Assemblée qui décide de l'urgence et qu'est-ce qui va être fait et quels sont les moyens financiers qui vont être mis en œuvre pour tout ça.
C'est exactement le cœur, et d'avoir des invités aussi qui peuvent venir justement concrètement, ou l'Agence de l'eau qui, encore une fois, je le rappelle, est vraiment nous, notre partenaire. Différents membres de l'Assemblée qui vont retenir les choix. Nous, on est que des techniciens. Hein. On propose et les élus disposent selon les priorités.
On demandera les critères. Merci à tous les quatre.
Merci à vous, surtout de nous donner l'occasion de pouvoir partager notre passion.
Au contraire. Tous les acteurs du territoire viennent faire des émissions à la radio. C'est leur territoire et c'est leur radio, en fait. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ça coule de source. Une émission du SAGEBA, le syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Automne.